Bienvenue dans Eucharistia, l'émission qui vous emmène à la découverte des miracles eucharistiques. Présenté par Marie-Catherine Bédouré.
Les guérisons miraculeuses de toutes sortes qui s'accomplissent à Lourdes sont incalculables. En 2025, sur les 7300 guérisons enregistrées au bureau médical, 72 ont été reconnues par l'Église, dont une douzaine devant le Saint-Sacrement. Faisons connaissance avec l'une de ces miraculées de Lourdes, Marie-Thérèse Noblet, guérie lors du passage du Saint-Sacrement le 31 août 1905, vers 16h30. Au nord de la France, dans les Ardennes, plus précisément à Signy-l'Abbaye, une petite fille naît le 30 septembre 1889. Elle s'appelle Marie-Thérèse Noblet. Son père, industriel, a une filature de laine. Il emploie 300 ouvriers. C'est une famille bourgeoise, aisée. La pratique religieuse y est à l'honneur. Elle vit dans une famille heureuse. La maison à Signy est le lieu de rencontre pour toutes les familles élargies, à l'époque nombreuses et solidaires, les oncles, les tantes, les grands-parents. Mais de grands malheurs s'abattent sur cette famille. Difficultés financières, car les affaires industrielles subissent une crise. Des deuils. Marie-Thérèse vit tour à tour, en 6 ans à peine, le décès de 5 de ses proches. Son père, sa sœur, sa mère, sa grand-mère et son grand-père paternel. Avec son frère, elle est prise en charge par ses grands-parents maternels. Marie-Thérèse écrira plus tard.
Le bon Dieu nous les reprenait l'un après l'autre, probablement pour que nous soyons plus à lui.
À la faillite de l'entreprise et au deuil en série, une troisième épreuve vient s'ajouter, la maladie, dès l'âge de 8 ans. Tout commence un soir de Noël 1896. Marie-Thérèse, pensionnaire à plein temps dans l'établissement scolaire L'Enfant Jésus à Reims, tombe gravement malade. Le docteur diagnostique une péritonite tuberculeuse. Mais Marie-Thérèse guérit suite à une neuvaine à la Sainte Vierge. Elle raconte.
À la suite d'une neuvaine, la Sainte Vierge voulait déjà se montrer ma mère, car elle me sauvait d'une mort certaine.
L'abcès finit par se percer. Marie-Thérèse, enfant intelligente, très sage, très timide, travaille fort bien à l'école. On l'aime beaucoup. Le 22 mai 1901 est une date importante pour elle. Elle fait sa première communion et se donne à Jésus pour toujours. Un engagement qui va résumer toute sa vie. Âgée de 15 ans, elle tombe à nouveau malade. Le médecin diagnostique une tuberculose des vertèbres. L'espérance de survie est limitée. Et début décembre 1904, les douleurs reprennent de plus belle à la gorge, aux oreilles. Le côté gauche se paralyse. On lui met un corset en plâtre. Elle souffre horriblement. Son état est grave. Seul un miracle peut la sauver. L'abbé Dieudonné, curé de la paroisse et ami de la famille Noblet, est conscient que la médecine a fait preuve de ses limites. Il émet l'idée d'un pèlerinage à Lourdes. Marie-Thérèse bondit de joie.
Je n'avais qu'un désir, celui d'y aller.
À son entourage qui s'inquiète de sa réaction en cas de déception, Marie-Thérèse réplique.
Si la Sainte Vierge ne me guérit pas, je me résignerai sans peine, parce que je suis sûre que si elle ne le veut pas, c'est pour mon bien.
La souffrance devient insupportable. Le médecin pratique une ouverture du corset à l'endroit du mal. Raison de plus pour partir. Marie-Thérèse brûle d'impatience. Le jour tant espéré arrive enfin. « Matelas et oreillers sont apportés par les brancardiers. Les malades installés dans des wagons. Et au terme d'un voyage particulièrement fatigant, le convoi arrive enfin à Lourdes, le jeudi 30 août. Il était temps. Marie-Thérèse n'en peut plus. Le 31 août 1905, à 13h30, elle demande à être transportée à la grotte dans une voiturette, puis véhiculée vers l'esplanade où doit passer le Saint-Sacrement. Selon la coutume, chaque malade est béni au passage de l'ostensoir par le célébrant. Écoutons le récit de Marie-Thérèse Noblet.
« Je souffrais atrocement. J'étais toute congestionnée. Sur le chemin du retour de la procession du Saint-Sacrement, en arrivant à l'hôpital des sept douleurs, immédiatement toutes ces douleurs cessent. J'étais comme inondée de joie. Et tout au fond de moi-même, une voix me disait « Lève-toi, tu peux marcher. » Immédiatement poussée par cette voix, je m'écrie « Monsieur le curé, mon Dieu, je suis guérie !» Tous se retournent pour voir si je parlais sérieusement. Mais monsieur le curé sévère me dit « Taisez-vous, vous ne savez pas ce que vous dites !» Mais monsieur Juillet avait vu le mouvement et il fait signe à monsieur le curé « Monsieur l'abbé Dieudonné, ça y est, elle est guérie, elle est guérie !» Entendant cela, je me sentis encouragée. Je voulais descendre du brancard, je voulais remuer les jambes, ce que je n'avais pas fait depuis 3 semaines. Mais monsieur le curé était toujours sévère. « Monsieur le curé, mettez-moi sur mes pieds, je vous assure, je puis marcher. » Alors monsieur le curé me fit des gros yeux et me dit « « Obéirez-vous ? Je vous dis de rester tranquille. Ce n'est pas ici que la Sainte Vierge fait des miracles. »
En réalité, cela cache un doute. Monsieur le curé éprouve bien vite le besoin de procéder à une enquête personnelle et discrète. Remise dans son lit, Marie-Thérèse demande aussitôt à manger et fait honneur à une copieuse ration de poulet et de gigot qu'on lui apporte. Au point que sœur Renée, qui veille sur elle, s'inquiète de l'avoir mangée avec un appétit insolite et ensuite de l'avoir sombrée dans un sommeil profond, inhabituel. Aussi, la confie-t-elle pour la veiller toute la nuit à une garde malade. Cette garde malade n'en revient pas de l'avoir gigotée dans son plâtre comme une petite anguille. Marie-Thérèse Noblet poursuit ainsi son témoignage.
Vers 13h30, tous les malades étaient déjà partis de la salle. Les brancardiers arrivent, puis M. l'abbé Surie, sœur Bonnat et sœur Renée. On ferma les portes à double tour. Puis on me mit sur pied, et sans souffrance aucune, sans même sentir mon plâtre, je marchais. On me remit alors sur mon lit. Et dans l'après-midi, on me transporta au bureau des constatations médicales.
Le jour même, elle est examinée par le docteur Boissary, qui dirige le bureau des constatations, et par des confrères médecins. Tous constatent qu'elle est vraiment guérie. Ils la font marcher, elle marche. Ils cassent le corset de plâtre avec une hachette. Ils tâtent l'endroit jusque-là douloureux, sans ménagement, elle ne sent rien. Force est de constater qu'elle est guérie. Elle écrira.
Chacun appuyait à l'endroit si sensible auparavant, mais cela ne faisait aucun mal. L'un de ceux qui était là dit « Mais si elle n'a plus mal, vous allez lui en faire !» Un autre reprit « Oh, nous nous en faisons en voulant lui en faire !» La cause est entendue. Ils dirent tous que je n'avais plus rien.
Monsieur le curé devient tout pâle, au point qu'un abbé qui est à ses côtés juge utile de lui tendre un siège pour lui permettre de se remettre de ses émotions. Et le médecin de lui dire
« Mais laissez-la aller, remerciez le bon Dieu, à la grotte. »
La joie est à son comble. Le surlendemain, à 6h, après une nuit reposante, Les brancardiers arrivent pour conduire l'ex-malade sur l'esplanade. Mais elle s'y rend à pied. On l'accompagne ensuite au bureau des constatations, non plus pour y être examinée, c'est déjà fait, mais pour y être interrogée. L'entrevue terminée, on la conduit à la grotte, puis sur les bords du Gave, pour un moment de détente. Histoire de plaisanter, Marie-Thérèse, inversant les rôles, pousse à son tour la voiturette dans laquelle prennent place ses brancardiers. Jour du départ. Le pèlerinage arrive à son terme. Un nouveau rendez-vous avec le docteur Boissary a lieu. La nouvelle de la guérison s'est répandue. Les médecins nombreux se pressent au bureau des constatations médicales. Sa guérison sera reconnue officiellement par l'archevêque de Reims 3 ans après. Saint Jean de la Croix a bien raison de dire que Dieu écrit droit avec nos lignes courbes. Certes, comme tout baptisé, Marie-Thérèse Noblet a pour vocation d'être apôtre et co-rédemptrice. Toutefois, la vie de Marie-Thérèse apparaît avoir été plus spécifique. Dieu la destine à partir en Océanie pour travailler à la formation des religieuses de Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie. La communauté vient à peine d'être fondée par Mgr Alain de Boismenu. Dieu la destine aussi à participer personnellement et de manière volontaire, par son union au Christ, à l'apostolat des missionnaires. Elle sera par la suite une authentique mystique, reconnue et une intrépide missionnaire. Mais ceci mériterait une autre émission. Au revoir. Nous nous quittons sur des chants de Papouasie, Nouvelle-Guinée.
Vous venez d'écouter Eucharistia, l'émission qui vous emmène à la découverte des miracles eucharistiques. Présenté par Marie-Catherine Bédouret.